Mes chers amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche. Ça me fait grave plaisir de vous retrouver une fois de plus. La température remonte, les cœurs se réchauffent et les claques qui se perdent. Will Smith et encore Will Smith. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là, avant toute chose la famille, lâchez-vous. Laissez-vous aller, si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Vous allez être trop stylé abonné à Quelle Histoire, je vous assure. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec une pointure dans le maniement de la langue de Molière. Canadien d'ascendance ivoirienne, il fait du slam avec un album au compteur intitulé Poésique. Invité au festival Vue sur la Relève, les Francopholies de Montréal, au Festival international de jazz de Montréal, au Forum mondial de la langue française, aux côtés de grands corps malades, pour ne citer que ceux-là. Actuellement, il est en préparation de son deuxième opus. Je vous laisse découvrir qui est Fabrice Kofi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut Fabrice, comment vas-tu?
Très très bien David, et toi quand même, comment tu vas?
Très bien, comment va la vie?
Tranquille, fatigué, longue journée avec des ateliers, avec des enfants là, mais très heureux d'être là et puis de partager ce moment avec toi.
D'accord, ben, je suis content pareillement. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet.
Go.
Fabrice, tu es originaire de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi avoir choisi de t'établir au Canada?
Disons que mes parents ont choisi pour moi. Je suis né au Canada, à Ottawa précisément. Pendant que mes parents étaient là, je pense qu'il y avait mon père était en contrat qui s'achevait d'ailleurs. Et moi, je suis né pendant la fin de ça et puis on est rentré un an après, deux ans après, on était en Côte d'Ivoire.
Ah, d'accord, je comprends. Et donc finalement, tu es revenu ici à ta majorité?
Oui, 18 ans, je suis revenu ici. Je t'avouerais que c'était un non-dit toute ma vie, là, de quand tu seras grand, tu iras à Montréal, quand tu seras grand, tu iras au Canada, tu retourneras, entre guillemets, là. D'accord. Ça a été une carotte un peu pour me motiver, je pense, pour les études.
D'accord. Et raconte-nous ton premier jour au Canada. Quelles ont été tes impressions?
Je t'avoue que j'étais pas forcément dépaysé. Je suis arrivé, j'avais déjà deux cousins, une cousine qui était là.
D'accord.
J'avais un appartement dans leur building, donc je suis arrivé déjà plus ou moins en famille. J'avais pas mal voyagé quand même avant ça. J'avais passé 3 ans aussi avant ça en France.
D'accord.
Donc j'étais pas vraiment dépaysé.
D'accord. Et le froid, tout ça, la machin, c'est pas voilà quoi, ça a pas changé ça.
Le froid, c'est le... Disons que la première... J'étais déjà venu de passage en 93, donc j'avais vu déjà le coin là. Revenant en 99, le premier hiver, j'étais vraiment préparé parce que tout l'univers entier m'avait dit qu'à Montréal, au Canada, il faisait froid. C'est vraiment le message de tout le monde là. Il fait froid. Donc, t'arrives et t'es prêt. Tu te dis, OK, ça va être grave, ça va être froid. Et en fait, c'est le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième hiver qui sont dangereux. Parce que t'es vraiment, pour le premier, t'es prêt. Psychologiquement, t'es prêt. Tu te dis, ben non, ça va. Et ensuite, tu te gardes. Et là, ça frappe. Donc, ça a été. C'est maintenant là que c'est compliqué.
Ah ouais, c'est après, on en a marre, quoi. Le corps, ouais, ouais. est-ce que tu viens d'Abidjan?
Je viens d'Abidjan. Un petit village à côté de Bassam, qui était la première capitale de la Côte d'Ivoire.
Bah d'accord, alors donc changement de décor, Fais-nous visiter ton quartier d'Abidjan ou Bassam.
Cocody, on a grandi à Cocody, Bassam, c'est le village, on pourrait parler du village aussi, oh là là. Mais Cocody, c'est une maison située derrière le grand marché de Cocody, qui est
D'accord.
lui parallèlement situé à l'église Saint-Jean,
Mmh.
très connu à Abidjan, Cocody. Et nous, on a une maison juste derrière, dans un. T'arrives, t'as un super parking, quelques immeubles, et puis t'as une petite maison là, c'est la maison des Kofi là.
D'accord. Et comment c'était? C'était un coin résidentiel? Ça se passait comment? Décris-nous là, j'ai envie de rêver là, fais-nous rêver.
Disons que c'était privé. Non, pas du tout. On avait pas mal d'amis de tous les niveaux, privilégiés, non privilégiés, dans le coin, dans le quartier, avec lesquels on s'amusait, avec ou sans l'autorisation de nos parents là.
D'accord.
Mais en gros, écoute, ça dépend si on parle d'une journée scolaire ou pas. Mais on va dire c'est le week-end. Moi, mon week-end, c'était me lever le matin, prendre ma balle de basket. Prendre un taxi, aller à l'université sur le cours, retrouver mes amis, jouer jusqu'à peut-être midi, rentrer à la maison, manger une bonne sauce graine, qui est une sauce à base d'huile de palme, un
D'accord.
bon petit riz là, et puis ensuite à l'après-midi recevoir des amis à la maison, se mettre sous la paillote, sur la patame, et puis vraiment manger un petit aloco, banane plantain brisée là.
D'accord.
Ça ressemblait à ça quand il n'y avait pas de devoir, sinon c'était une autre atmosphère, mon frère. La maman était là avec la chicotte.
Je comprends, je sais. Ça, c'est un passage oblige quand on est africain. D'accord. Donc, d'où t'es venu ton amour pour la poésie?
De mon désir de vouloir être heureux, je pense. De mon désir de vouloir trouver ma place, être heureux, en fait.
D'accord.
J'avais un trajet qui m'amenait à être banquier,
D'accord.
pour faire plaisir à plein de choses et convenir. Et j'étais assez malheureux à la fin de tout ça. Et je pense que la poésie s'est présentée à moi un peu comme un. Pour moi, c'était la seule chose à faire. Je n'avais pas trop le choix. Je suis allé en soirée. Je suis allé un mardi, je suis rentré dans un café. Il y avait une soirée d'improvisation musicale avec le Calmunity Vibe Collective. Et puis, j'ai vu ça. J'y suis allé pendant un an tous les mardis non-stop. Et puis, c'était vraiment plus fort que moi, là. C'est comme, mon cœur battait énormément quand j'y étais. J'ai regardé les textes que j'avais quand j'étais à Abidjan. J'avais 13-14 ans, là. J'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas. Donc, j'étais le dos au mur dans ma vie personnelle. J'avais besoin d'espace et de liberté et d'autonomie, surtout.
D'accord. Donc ça a commencé très jeune. T'as pas commencé à écrire plus vieux. C'était déjà un désir que tu avais depuis très jeune.
13 ans, amoureux d'une fille qui s'appelle Francesca, qui ne veut rien savoir de moi. J'écris un petit poème, j'aime l'expérience, et puis je
D'accord.
continue à écrire comme ça de temps en temps. Mais dans le milieu où j'ai grandi, sportifs et musiciens, ce ne sont vraiment pas des emplois ou des portes pour devenir quelqu'un. Donc dans
D'accord.
ma famille, il n'était pas question de parler ni de sport ni de musique. Donc non, j'ai jamais eu la prétention de devenir artiste ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'ai fait le choix vraiment de moi-même à 27 ans finalement de passer de l'autre côté puis de décider d'être heureux pour moi.
Et Francesca, tu l'as retrouvée?
Non, pas du tout. Non, je vais pas prendre cette case. Je la remercie tous les jours, par contre.
D'accord. Et penses-tu que le slam est bien ancré ici au Canada?
Mais si on parle de slam en tant que la soirée, du coup, ça représente le slam depuis 1984 que ça a été créé.
D'accord.
Oui, il y a quand même 5-6 régions du Québec qui ont leur ligue de slam, qui ont leur compétition. Il y a quand même la compétition nationale tous les ans à Montréal.
D'accord.
Oui, maintenant, est-ce que le public suit? Oui, non, peut-être qu'il pourrait avoir plus de projections, mais je ne sais pas si le slam est un art qui s'adonne finalement à ce genre de popularité. C'est vraiment un art populiste, là. C'est pour le peuple, vraiment, là. Et je
D'accord.
pense qu'il est, quelque part, il est censé rester underground, quelque part.
D'accord. Et en 2010, tu as publié un recueil
Oui.
intitulé Village mental.
Oui.
Peux-tu nous parler de cette collection de poésie?
Me retrouver à l'horizontale sur une page. J'avoue que quand j'ai eu la proposition avec la maison d'édition Adage, je n'ai pas forcément été emballé au début parce que pour moi, ma poésie était vraiment orale, orale, orale et se tenait debout. Mais je t'avoue que l'expérience a été très agréable et en même temps un peu désagréable parce que j'ai vu mes slams et mes textes se faire couper la tête, couper un bras, couper une jambe, couper une oreille, enfin les modifier pour qu'ils soient agréables pour la page, pour l'horizontalité. Et puis je me suis, ça m'a un peu, ça m'a, disons que ça m'a pas dénaturé, mais on n'est pas pareil à l'oral et sur une page. Donc l'expérience a été très agréable. Et maintenant, après 10 ans, là, je suis peut-être plus préparé, si tu veux, à réembarquer dans. Là, j'ai plein de projets justement de petits recueils que j'aimerais sortir.
D'accord. Et comment incorpores-tu ta culture ivoirienne dans ta vie de tous les jours au Canada?
Oh là là, comment je l'incorpore? Je pense que juste le fait d'être ivoirien déjà, c'est l'incorporer dans ma façon de parler, de manger, de vivre, de discuter. J'ai vécu environ 20 ans en Côte d'Ivoire et 20 ans à Montréal. Donc 20 ans à Abidjan, on va dire, et 20 ans à Montréal. Donc j'accueille vraiment les deux cultures et puis je suis imprégné de ces deux-là. Donc je les traîne partout, tout le temps, donc peu importe ce que je fais. Quand je vais à Abidjan, que je parle, mon accent ivoirien est teinté d'expression québécoise. Et puis quand je suis ici au Québec, mon accent québécois, on va dire, est teinté d'expression ivoirienne. Donc partout, c'est partout, tout le temps. C'est partout, tout le temps. Je pense pas que je manque une occasion de nous rappeler à quel point les êtres humains sont, enfin, non, 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 non. Qu'est-ce que je veux dire? À quel point nous sommes, c'est universel finalement, les choses à quelles on a, nos aspirations, voilà. Nos aspirations sont universelles, donc je pense que je ne manque pas une occasion de faire le lien entre ça.
Effectivement. Et quels sont tes projets futurs?
Finir un album que j'ai commencé depuis 5 ans, qui est comme une grossesse qui ne veut pas finir, sans vraiment aucune comparaison avec ma mère et puis toutes les femmes là qui passent par là réellement. Mais c'est ça, donc je suis, ça achève là, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, donc c'est ça, et puis les petits projets de recueil, comme je t'ai dit, plein de voyages que j'ai fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Europe, pas mal d'écrits que j'aimerais aussi mettre sous forme et puis présenter un peu, qui puissent se manifester. Immédiatement, ce serait ça. Ce serait ça. Puis sinon, je suis pas mal occupé avec les ateliers en ce moment dans les écoles. Bon, ça m'occupe pas mal.
Et est-ce que ça sera ton premier album?
Ça sera mon deuxième album.
Deuxième,
J'en ai fait
ok.
un en 2009, je pense.
Qui s'intitule?
Poésique.
Poésique, d'accord.
Poésique, oui. C'était mon premier. Pour moi, c'était un peu un CV que je faisais après 3 ans, 4 ans dans la musique, après avoir arrêté de répondre aux offres d'emploi pour être banquier.
D'accord.
C'est une façon de me présenter, surtout pour mes parents, mes gens, un peu leur dire voilà ce que je fais maintenant, voilà ce qui se passe. J'ai rencontré un guitariste qui est devenu mon ami finalement, Guillaume Soucy, avec lequel en 2006 justement, avec lequel j'ai travaillé pour cet album-là, qui m'a permis après vraiment de Francofolie, Jazz Festival, et puis de vraiment d'ouvrir un peu ce qu'il y a aujourd'hui, quoi.
D'accord. Et l'album poésique est-il disponible sur toutes les plateformes ou
Il
pas?
est disponible sur les plateformes POESIC.
D'accord, poésique. Très bien. Et comment cette pandémie a-t-elle affecté ton mental, au fait?
Je suis une personne assez solitaire. Disons que on n'a pas, on a, les artistes en général ou ceux qui bougent beaucoup, on a pas mal d'ateliers, de rendez-vous, de shows que quand je peux être à la maison, je reste à la maison, je suis à la maison. La pandémie est arrivée. Et donc, dans les premiers mois, ça n'a pas dérangé à ce niveau-là. C'est vrai qu'après, ça a été un peu plus compliqué. Disons que j'avais l'impression de perdre mon espace physique, mon espace intérieur. Puis avoir le droit d'être libre et de sortir et de partir, là. J'avais vraiment l'impression que mon espace était réduit. Est-ce que j'ai compensé en écrivant plus? Absolument pas, parce que ça ne m'a pas motivé du tout, du tout, du tout pour écrire, surtout dans les débuts. Moi, pas personnellement en tout cas. J'assimilais plutôt tout ça, là. Et puis, en fait, ça m'a orienté sur l'homme que je suis, l'humain que je suis, et puis les rêves ou les aspirations que j'avais personnellement là. Je pense que ça m'a permis juste de mettre un peu plus de lumière sur ce que je voulais ou qui je voulais devenir.
Et maintenant, nous allons passer à la question. OK?
La question.
Oui, la question. Une question par rapport à un moment marquant de ta vie. Normalement, je pose la question de cette manière. Où étais-tu? Quand? Par contre, dans ton cas, je ne peux pas la poser de cette manière par rapport à l'événement que tu as choisi parce qu'il remonte il y a à peu près à environ 200 ans. Donc, tu n'étais pas là.
Non.
Mais c'est un événement marquant et je le respecte et j'étais bien content qu'on puisse en parler. C'est la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Et avant que tu commences à dire pourquoi cet événement t'a marqué, je tiens à remettre les gens dans le contexte de cette conférence. La conférence de Berlin marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. D'accord. Donc, qu'est-ce que cette conférence... pourquoi cette conférence t'a marqué?
On apprend ça à l'école. J'ai appris ça à l'école étant préadolescent même. Adolescent, préadolescent, c'est une leçon qu'on apprend en histoire et qu'on nous pose même en examen comme question. Et donc, on s'apprenne cette question-là. Je pense que j'étais en classe déjà, j'avais été troublé par ce principe-là, mais à l'époque, on était tellement encore en train de vouloir ressembler à quelque chose et à quelqu'un d'autre que ça passait vraiment, il fallait vraiment le faire là. Tu vas avoir une bonne note, t'as pas le choix.
D'accord.
Et puis, en grandissant et puis en mûrissant, surtout en arrivant ici, je me suis pas mal approprié mon africanité en arrivant ici à Montréal, spécialement un peu par la capoeira, qui est un art martial afro-brésilien. Par lequel j'ai retrouvé pas mal de coutumes, de restes de coutumes ou de choses que je connaissais déjà, qui avaient voyagé, qui se retrouvaient là-bas et qui m'ont rappelé que j'étais finalement ici, dans les années 2000 quand je suis arrivé. Et je pense que la question m'a alourdi finalement. M'a alourdi un moment, juste le fait de réaliser, enfin bref, juste alourdi.
D'accord. Et allez, vas-y.
Et vas-y, tu peux me répéter ta question, je me suis un peu...
Oui, c'est ça. Et pourquoi cette conférence t'a-t-il marqué?
Ok, d'accord, c'est bien ça, ouais. C'est ça, ça m'a alourdi tellement. cette conférence m'a marqué à cause de la phrase qu'on nous faisait apprendre. Partage de l'Afrique comme un vulgaire gâteau.
D'accord.
Et donc, c'est cette phrase-là qui finalement n'est jamais partie. J'ai jamais oublié, j'ai même écrit un texte qui s'appelle Vulgaire Gâteau. Et je pense que c'est le manque total de, de reconnaissance, d'appréciation de l'autre. Je pense que c'est juste la séparation, le décalage complet qui a la permission prise par quelqu'un de s'approprier finalement complètement quelque chose d'autre. C'est tellement gros que je n'arrive même pas à mettre de mots dessus, en fait.
Ouais, c'est de s'accaparer, de s'approprier et de décider de le partager à son aise.
Écoute, c'est comme... ça s'appelle « Allô, David, ça va? Tu fais quoi cet après-midi? Rien? » Puis on se rend compte, cool, il y aura Stéphane, les gens aussi, cool, génial. Allez, les gens, ok, bah écoutez, il y a une carte là, alors il y a des crayons, ce qu'on va faire cet après-midi, on fume des cigares et puis on les... C'est ça, là, la légèreté, la désinvolture, l'absolu pouvoir et puis l'absolu, c'est presque ils sont imprégnés de la mission de devoir le faire. C'est leur mission, c'est bon, c'est noble, c'est juste. Et donc assis à table, ben on va découper une carte et puis on va s'abattre. C'est tellement gros que voilà, c'est ça.
Et tout ça sans tenir compte des peuples sur place, parce que
ils ont
découpé l'Afrique de comme ils avaient envie, et puis ils ont séparé des peuples. et puis ils ont créé des problèmes, ils ont créé des affrontements. Ils ont, comme par exemple avec le Rwanda qui...
Étant donné qu'ils avaient le pouvoir divin de nous civiliser, je pense que prendre la peine même de reconnaître qu'on avait des royaumes et des frontières naturelles et nos guerres internes et nos amours et nos haines qu'on avait déjà entre nous, là, prendre soin de ça, de nous respecter nos royaumes. Ils ont divisé le royaume en quatre, là, en deux, en trois. Toi, viens ici, on te met avec les ennemis que tu avais avant, mais de génération en plus, là. Ce n'est pas des ennemis juste d'il y a 4 ans, là. Depuis des années-lumière, là. Là, on te met ensemble, là. Let's go, là. Allez-y, là. Vous allez prendre la même langue, et puis vous allez vivre ensemble. Puis, sans tenir compte d'aucun critère, de rien du tout, de façon très homogène pour eux. Puis, en effet, oui, en effet, oui. En effet, je veux dire, tu vas au nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et puis, d'un côté, tu as la Côte d'Ivoire, et puis, au nord, là-bas, tu as le Burkina Faso, et puis, je suis désolé, mais c'est les mêmes gens, hein. C'est les mêmes gens, c'était le même royaume là, c'était comme ça appartenait vraiment au même royaume, les Faso.
Donc ouais, c'est comme nous le Congo avec la République centrafricaine.
Oh mon Dieu, oui.
Bah, voilà quoi, c'est
un
c'est,
grand royaume.
Bah voilà, c'est ça, le royaume Congo.
Exactement. Donc du coup on te le découpe en deux, puis après on te dit c'est deux peuples différents. Donc oui, en effet, oui évidemment que tous les on va s'arranger de nos petits désagréments là. On va y arriver, on n'a pas le choix que d'accepter les nouvelles frontières, et puis on va y arriver, et c'est pas nous, c'est nos enfants, et puis c'est nous, on va y arriver. Mais vrai, est-ce qu'on avait besoin de passer par là? On n'était pas bien avant nous, nos royaumes, tranquille.
Bah écoute, on va décompresser un petit peu.
Go! C'était très émotionnel, là je suis désolé, là, je n'ai même pas été objectif du tout, c'était de l'émotion. Qui a parlé.
Pas besoin du tout. Donc, on va décompresser. Je vais te poser cette question. Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
Je n'ai pas de film préféré, un film préféré. J'ai plein de films favoris, on dirait, je n'ai pas mal. Mais là, je vais dire The Matrix, La Matrix. Numéro 1, uniquement numéro 1. Le seul.
Le tout premier, moi je suis sorti du cinéma, j'étais complètement explosé quoi. Je dis, qu'est-ce que je viens de regarder, c'était un truc de malade.
Ouais, je suis sorti du cinéma. Nous j'étais avec mes deux cousins là, comme c'est parlé au début là, je savais pas du tout où j'allais. On est rentré, on s'est assis, on a vu le film, on est sorti, on a directement pris des billets pour la séance d'après, direct. On est sorti, on a pris des billets, on est reparti. Parce que c'était un peu trop intense, un peu trop. Il fallait être préparé en fait.
Mais en la plus, on ne te raconte pas tout. Il faut regarder le 2 pour comprendre un peu plus. Parce que là, ça commence brusquement, on dirait au milieu.
C'est malade.
Et ça se termine comme ça en queue de poisson. Tu te poses des questions. Quoi. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui se passe quoi.
À tous les niveaux. Ils nous ont stimulés et perturbés les 10 premières secondes du film quand Trinity fait son action. C'est juste ça, là. Le cinéma était à l'envers. Juste ça. Et la tension ne s'arrête pas. Ça commence là. Et ils te tiennent jusqu'à la fin. Ils te tiennent. En plus, après, il y a le niveau philosophique. Là, si tu veux en parler un peu, il y a tellement de niveaux. En plus, là, ils osent te dire que oui, le monde dans lequel tu vis, ce n'est pas la réalité. Ce qui rejoint plein de machins de conspiracy theory entre nous ici. Là, c'est comme... Enfin, ils ont fait une révolution. Quand c'est sorti, là, c'était comme... Ils ont osé dire aux gens, en fait, qu'on se foutait de nous en live.
Exactement.
Ils nous ont dit qu'en fait, c'était faux. Waouh. Enfin, bref. Plein de niveaux. Plein de niveaux. Plein de choses. Les scènes de Kung Fu.
Ce que j'aimais, c'est que... Keanu Reeves a vraiment appris le Kung Fu. Tu vois, des fois, tu regardes des films où tu vois un mec... Il fait du kung-fu, mais tu vois que s'il est pas bon, tu vois, il est pas correct. et c'est un peu embêtant, quoi, parce qu'il est censé être bon, taper tout le monde, mais tu vois qu'il est pas carré. Alors que là, tu vois vraiment qu'il avait pris le temps, quoi. Le mec, il a pris vraiment des cours et il était carré à la fin, quoi, tu vois. Ouais. C'est extraordinaire. Lui, et puis il y a Lawrence Fishburne, tout ça, là,
ils étaient... Ils sont tous crédibles. Comme tu dis, ils sont vraiment tous crédibles. Et Keanu Reeves, c'était vraiment pas mon acteur préféré, hein. Genre, vraiment pas du tout, mais vraiment pas, au contraire, hein.
D'accord.
Dans The Matrix, là, franchement, j'ai rien trouvé à lui dire, hein. Et en effet, son kung-fu était clair, Lawrence, pareil, enfin, c'était clair, ouais. Ils ont l'air convaincant. Le script, le film, les images, le kung-fu, les... tout. La technique, les images, oh mon Dieu, ouf, les caméras qui tournent là.
Avec, comment il s'appelle, l'agent Smith, c'est ça, l'agent Smith.
Oh mon Dieu, oh là 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 là, tout le monde voulait être comme lui, parler comme lui, tout.
Mr. Anderson.
Exactement. Oh non, The Matrix.
Ah ouais, il déchire ce film. Ta chanson préférée de tous les temps?
Ma chanson préférée, même style aussi, j'ai pas forcément de une chanson préférée, j'ai plein de moments, plein d'époques de ma vie avec plein de chansons différentes. Et je pense que l'une des époques quand même les plus joyeuses, j'ai envie de dire là, je vais dire Don't Be Cruel, Bobby Brown. Le clip était frais, le gars dansait comme un malade, la musique, le rythme qu'il y avait derrière, et puis c'était pas Michael Jackson, tout le monde trippait sur Michael, machin, là. Là, il arrivait un peu, il faisait le million entre Michael et Prince, ou non, frais. Il y avait New Edition avant, en plus, il revenait, non, très frais, ça m'a, ouais, perturbé.
Non, mais les gens aujourd'hui, c'est pour ça que c'est difficile, hein. C'est dur de vieillir, et puis parce que les gens se rendent pas compte de qui était Bobby Brown, quoi. Oh, on le regarde comme ça, mais Bobby Brown, il était extraordinaire. Le mec, il s'est fait virer de New Edition pour qu'on lui donne une carrière solo, quoi. Le mec, il était trop bouillant pour être dans un groupe, quoi.
Tu te rends compte ?
On te vire, mais on te donne un contrat solo.
Carrément. Et d'ailleurs, solo est presque au niveau de New Edition. Malade.
Ah oui, bah, il les a pas emmerdés. Je suis sûr que les autres, ils étaient emmerdés. Le mec, il était bon. Et puis, il a vendu de ouf et tout. C'était extraordinaire ce qu'il a fait.
Donc, franchement, et à tout chaque album, franchement, entre Prince et Michael, boum, il est venu tout mélanger.
Ouais. Cet album, Don't Be Cruel, quelques années plus tard, il est revenu, il était un peu plus gros, il avait pris un peu de poids, mais là, il était...
Ouais, c'est vrai, Humping Around.
L'album de Bobby. Ah, cet album, Humping Around, c'était...
Il y avait des trésors dedans quand même, là. Vraiment.
Sa chanson avec Whitney, justement.
Oh mon Dieu.
Déchire cette chanson.
Des trucs, hein. Non, il jouait pas à Bobby, hein. Attention là.
Bobby Brown,
sous-estimé.
Ouais, en fait, non. En fait, il aurait pu avoir une autre place dans ce monde, dans le monde musical.
mais avec tous ses déboires.
Ah.
Après, on lui a collé l'étiquette que c'est lui qui a gâché la, lui qui a gâché la,
ouais,
la carrière de Whitney, alors que
ouais,
finalement,
ouais,
on a cru que c'était pas vraiment ça. Donc, voilà, quoi. Donc, quelque part, il a un peu passé aux oubliettes, quoi.
Ouais, 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 mais yo, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Hein. Il a pas vraiment, il a comme le gars a poussé, là, poussé quand même, là.
Ouais, c'était un good, hein. Le mec, il était
complet. Le gars, il jouait même pas. C'était... en tout cas.
Le mec, il dit, j'ai vu une émission sur lui. Il dit que il arrivait dans des villes comme ça pour un week-end. Il achetait une voiture. Il roulait avec la voiture pendant le week-end et ensuite il arrive à l'aéroport. Il a garé à l'aéroport. Il a abandonné. Il partait, quoi. Il dit, j'ai au moins une cinquantaine de voitures que j'ai abandonnées dans les parkings des aéroports.
Sérieux?
Je te jure.
Tu te rends compte?
Ah, Gueda, il était loin, il était trop loin, il était... Ah, enfin. L'entretien, vinyle ou CD?
Go. Que...
Ok, donc dis-moi, ou dis-nous, t'es plutôt vinyle ou plutôt CD?
CD, je veux dire.
CD, d'accord. Et sur scène, je sais que tu montes sur scène. Bon, après, je sais pas comment ça se passe avec le slam. Bon, je sais qu'il n'y a pas trop de musique. Enfin, c'est différent, c'est pas du rap. Mais mm-hmm. Est-ce que sur scène, t'es plutôt... Ou bien quand tu regardes un artiste à la télé, est-ce que t'es plutôt avec ou sans DJ?
Sur scène, je suis absolument sans DJ.
D'accord.
Musicien,
mais sans DJ, d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Et t'es plutôt Tupac ou plutôt Biggie?
Tupac.
Ah.
Même en fait, je suis au milieu, hein, parce que Tupac pour le knowledge et puis Biggie pour le flow. Donc, c'est chaud ton affaire, là. Ça dépend de quoi on parle.
Ouais, ça dépend dans quelle vibe tu es, quoi.
Ouais.
Et t'es plutôt sample ou plutôt création originale?
Création originale.
T'es plutôt rap ou plutôt trap?
Rap. Mais je flirte énormément avec la trap.
Ok. T'es plutôt rap hardcore ou plutôt rap commercial?
Oh, wow, c'est quoi ce truc? Je connais pas celle-là. J'étais prêt à répondre, j'étais comme wow. Oulala.
Bon, ok, je vais dire ça autrement. T'es plutôt NWA ou plutôt MC Hammer?
NWA.
D'accord. Ok. T'es plutôt Booba ou plutôt Caris?
Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ok, Booba.
T'es plutôt Apple Music ou plutôt Spotify?
Ni l'un ni l'autre.
Ah, d'accord. T'es plutôt Dr. Dre ou plutôt Timberland?
Ha! Ho ho! Ha ha! Hihi! Ça dépend des albums! Ça dépend des albums! Ça dépend des albums.
Ouais, c'est quand quels sont les beats qui te parlent le plus de Dieu?
Oh mon Dieu. Waouh. Ok. Oulala. C'est chaud ton affaire. Non, je peux pas. Je suis brûlé. Là, je saute de l'un à l'autre. Là, je saute du Timbi à Dre, de Chronic. Là, c'est comme c'est chaud. Je peux pas.
T'es plutôt boisson alcoolisée ou plutôt pétard?
Pétard.
Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Fabrice?
Oh waouh, espace et équilibre. Espace, de l'espace pour réaliser les projets, pour avoir du temps pour moi, pour voir les choses arriver. Oui, c'est ça. Prendre mon temps là. Donc beaucoup d'espace et puis équilibre pour rester serein face à tout ça là.
Ah bah c'est très bien. Bah Fabrice. Merci.
Merci beaucoup de ton temps, David, et puis de ton attention. Il y a quand même une attention que tu mets là. T'es là comme ça, de l'autre côté, on se voit pas. Il y a juste les voix qui partent là. Mais je sens quand même une attention là. T'es une partie de ta voix qui est très, très concentrée et puis qui prend soin de ce qu'elle fait là. Puis j'imagine que pour ça, tu prends soin de nous aussi là. Donc,
Très
Je me sens oui, merci beaucoup.
bien. Et je te remercie de l'honneur que tu m'as donné de participer à mon podcast. Je ne peux te souhaiter que de l'élite pour le futur. Et j'espère t'avoir dans les prochains mois, l'année prochaine, ou peu importe, pour revoir un peu ton parcours à partir de maintenant jusqu'à ce moment, à ce moment-là, quand on se reverra, et pour que tu me dises, tu nous racontes à nous tous ce qui t'est arrivé depuis, quoi.
Ce sera un plaisir, plaisir. Toi aussi, man. Bonne suite, bonne suite, bonne suite. Et puis au plaisir de te revoir absolument ou de t'entendre encore.
Merci.
Bonne suite. Hein. Super ce que tu fais. Génial.
Ciao, ciao.
Merci beaucoup. Man. Bye.
Bye. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Fabrice pour ce petit moment de confidence. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast dont je compte vraiment, mais vraiment sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao!